Bien, bonjour à toutes et à tous. Stéphane m'a demandé de venir ce matin pour, comme il l'a dit, qu'on évoque nos collaborations pendant 5 ans, hein, puisque je l'ai connu de 2 ans en tant qu'enseignant sur Saint-Priest, et puis après 5 ans en tant que coordonnateur des réseaux de réussite scolaire de Saint-Priest. Je dis des parce qu'il était, et ça avait été vraiment, ça a été un peu une bataille institutionnelle aussi pour obtenir d'avoir un temps plein pour les deux réseaux de réussite scolaire. Et je crois que c'est aussi déterminant pour la qualité de l'action. On pourrait en reparler si vous le souhaitez. Ce que je voulais peut-être dire d'abord, c'est vous dire 2 mots de mon parcours, parce que, comme je le disais à M. Leroux, comme on évoquait, je crois que quand on est sensibilisé à une problématique du fait de son parcours, j'ai eu un parcours, et très brièvement, essentiellement en éducation prioritaire, comme enseignant depuis les 81, puis ensuite une année comme coordonnateur de REP, et enfin, un parcours d'IEN essentiellement en éducation prioritaire après 2 ans passés en secteur rural sur la circonscription de Décines-Vaux-en-Velin et puis depuis 8 ans sur la circonscription de Saint-Priest. Alors je ne saurais pas dire où est l'origine de ma préoccupation par rapport aux devoirs, mais très tôt j'ai eu la conviction que la question des devoirs était centrale lorsqu'on veut parler d'égalité des élèves et que les pratiques actuelles concernant les devoirs étaient source d'inégalités et de renforcement des inégalités. Il y avait cette question-là, et puis une seconde question qui est toute la question de l'évaluation, de la notation des élèves, 2 questions qui me semblent fondamentales et qui, à mon avis, ont été longtemps délaissées par l'institution. La question des devoirs, de la notation, pourquoi ? Parce que ce sont deux questions qui sont très importantes au niveau de la relation avec les familles. Ce sont peut-être les plus importantes. Et en plus, ce qu'on peut observer sur le terrain, c'est que sur ces deux questions-là, il y a des pratiques complètement différentes d'un département à l'autre, d'une circonscription à l'autre, voire d'une école à l'autre. Avec la plupart du temps aucune harmonisation dans le système de notation ni dans les pratiques au niveau des devoirs. Donc très tôt j'ai eu la conviction que ces deux questions-là étaient centrales pour le fonctionnement de l'école et aussi des relations avec les parents et aussi pour essayer de lutter pour l'égalité des élèves à l'école. Sur la question des devoirs proprement dite, je crois que l'autre impression qu'on a en tant que responsable du système éducatif, c'est que sur cette question-là, malgré une avalanche de textes très anciens, hein, vous savez que l'interdiction des devoirs écrits, c'est 1956, mais depuis plus longtemps, il y a eu des préoccupations par rapport au fait que les devoirs sont proprement discriminants. Sur cette question-là, l'institution n'a pas su faire respecter ces textes, ces circulaires, et je trouve quand même qu'en tant que responsable de l'éducation nationale sur une circonscription, c'est quelque part assez étonnant, et je mesure mes mots quand je dis ça, hein, qu'une institution ne puisse pas faire appliquer des textes, alors que si ces textes sont répétés, c'est qu'elle pense vraiment que c'est quelque chose d'important. Je vais vous lire un texte. Vous me direz après, d'après vous, quand est-ce qu'il a été rédigé. C'est le texte d'un inspecteur d'académie de Haute-Marne. « J'ai appelé déjà votre attention sur les devoirs écrits faits dans la famille. Je vous ai dit que l'utilité en était fort contestable, qu'il risquait, après une journée scolaire de 6 heures, de fatiguer l'enfant, que les conditions matérielles où ils sont la plupart du temps exécutés pouvaient les rendre nuisibles à la santé de nos élèves, et je vous ai recommandé de les donner très courts, si vous ne les supprimiez pas tout à fait. J'estime, expérience faite, que leur suppression absolue s'impose. » Quelle année, d'après vous ? 1912. Hein, donc, et on a tout au long du XXe siècle, puis après, essentiellement après la circulaire de 1956, régulièrement des rappels à l'ordre de l'institution sur le fait que les devoirs donnés, en tout cas tels qu'ils le sont néfastes. Donc il y a vraiment à s'interroger, pour le moins, avant de dire on interdit pas, qu'est-ce qu'on interdit, qu'est-ce qu'on interdit pas, d'aller au fond de la réflexion pour faire que les pratiques... D'abord qu'on ait peut-être d'autres directives nationales, une réflexion nationale, une réflexion qui permette d'aller au fond de la question qu'est-ce que sont les devoirs, à quoi ils servent, pourquoi on en donne, dans quelles conditions. Ce qu'on a essayé de faire au niveau de la circonscription, c'est d'essayer d'engager une réflexion avec les équipes et d'essayer d'aller vers une harmonisation de ce qu'il est possible de demander aux enfants et aux familles. Ça a été un peu l'objectif. Premier objectif au niveau du temps scolaire et puis au niveau du temps périscolaire, essayer aussi de gagner en cohérence et de faire que les objectifs qu'on peut avoir dans le cadre de l'accompagnement à la scolarité et dans le cadre du travail personnel donné à la maison soient des objectifs qui tendent à se rencontrer au moins et qu'on trouve des points de convergence. Voilà, donc c'est ce travail qu'on a conduit avec Stéphane. Pour être clair, je dirais que globalement, en tant qu'IEN, avec les principaux de collège et les principales de collège, on s'est plutôt centré sur le temps scolaire et sur le travail sur les devoirs. Et Stéphane, dans le cadre de la politique de la ville, a beaucoup, beaucoup travaillé avec les partenaires locaux. Donc c'est un petit peu ce travail-là qu'on va évoquer ce matin. Et puis on a essayé, bien sûr, constamment de faire des choses aussi ensemble, temps scolaire et temps périscolaire. Donc je vais laisser à Stéphane présenter la partie, essentiellement la partie du travail qui a été conduit en périscolaire, sachant qu'on va avoir tout de suite aussi les liens avec le temps scolaire.
Alors, juste une petite aparté avant qu'on rentre dans cette petite histoire-là. On vous a mis une liasse de documents qui sont voilà, un certain nombre de documents auxquels on va faire référence dans l'exposé. Donc j'essaie de vous les mettre un petit peu dans l'ordre chronologique de la présentation. Voilà. Donc rapidement, je vous présente un peu le contexte au moment voilà, où je suis arrivé comme coordonnateur des deux réseaux de réussite scolaire sur Saint-Priest. Le contexte on va dire des dispositifs partenariaux centrés sur l'éducation sur le territoire. Alors, il y avait un projet éducatif local qui avait été rédigé en 2001. Pour aller très vite, ce projet éducatif local, il avait été rédigé par un cabinet privé, financé par la municipalité. Suite à la rédaction de ce projet par un cabinet, il y avait eu le recrutement d'une coordinatrice PEL, qui a été recrutée sur ses fonctions de coordination de l'ensemble des acteurs éducatifs. Et très rapidement, la municipalité lui a demandé de s'occuper également de la gestion des personnels municipaux qui étaient dans le périscolaire. Cette personne qui ne pensait pas avoir été recrutée sur ces missions-là est partie. Et la personne suivante qui a été recrutée pour s'occuper de la gestion des personnels périscolaires et à la marge de la gestion administrative du contrat éducatif local et du financement des actions liées au contrat éducatif local. Voilà. Et donc ce projet éducatif local, quand on le lit, il est très très bien, très bien, il est joli, il est bien ficelé. C'est un bout de papier qui est resté dans un tiroir. Voilà. J'ai pu en récupérer une copie papier, sous la main parce que je connaissais bien la coordinatrice Sévère. Mais voilà. Et la plupart des acteurs, au moment où j'ai pris mes fonctions sur le territoire, ne le connaissaient pas, ne l'avaient pas en main. Voilà. Donc, du coup, ce contrat éducatif local, il y avait une réunion par an, un comité de pilotage qui s'occupait simplement de recevoir les actions qui demandaient un financement CEL, de valider ces actions, et voilà, c'est devenu donc simplement un canal de financement des actions éducatives, mais sans aucune réflexion derrière. Voilà. Donc sur le territoire de Saint-Priest, il y avait une multiplicité d'offres d'accompagnement à la scolarité, et la plupart étaient exclusivement centrées sur l'aide aux devoirs, dans les centres sociaux, les maisons de quartier, etc. Au moment où je suis arrivé en 2007, il y a eu quelque chose qui a un peu vraiment bouleversé le paysage de l'accompagnement à la scolarité, c'est l'arrivée de l'accompagnement éducatif dans les collèges. Je ne sais pas si vous vous rappelez, les orphelins de 16 heures, etc. Donc c'est arrivé en 2007 dans les collèges et l'année suivante dans les écoles en éducation prioritaire. C'est un petit peu à ce moment-là où on s'est dit, vraiment, si on veut arriver à faire en sorte de remettre un peu de cohérence dans tout ça, à savoir qui fait quoi, il va peut-être falloir un petit peu se mettre autour de la table et essayer de réfléchir. Au même moment, se mettait en place le programme de réussite éducative. Ce qui me semble très important dans la mise en place de ce programme de réussite éducative, c'est que il me semble que c'est vraiment la première fois qu'il y a vraiment eu un travail de l'ensemble des partenaires du territoire, éducation nationale, conseil général, municipalité, les différents services de la municipalité, pour monter ce programme de réussite éducative. Voilà. Et une particularité de Saint-Priest, mais c'est peut-être pas la seule commune où ça se passe comme ça, mais chacun des dispositifs éducatifs était porté par un service différent de la municipalité. Il y avait un service politique de la ville qui portait le volet éducatif du CUX. Il y avait le CEL qui était porté par le service éducation. Le PRE qui était porté par le CCAS. Et puis le contrat enfance-jeunesse où il n'y avait qu'un volet petite enfance qui était porté par le service petite enfance. Voilà. Il n'y avait pas vraiment au départ de dialogue, d'échange entre ces différents services. Voilà. Deux mots aussi sur le contexte de la commune de Saint-Priest, qui me semble assez important et qui explique aussi la priorité qu'on a mise sur ces questions de devoir à la maison. C'est une commune où la majeure partie de la population est sur des PCS ouvriers employés, et surtout avec un très faible niveau de qualification des adultes. Voilà. Vous avez les chiffres précis ici. En gros, plus de 70% de la population avait un niveau de qualification inférieur au BEP-CAP. Et c'est vraiment des chiffres sur lesquels on s'est appuyé quand on a travaillé avec les enseignants pour vraiment poser la question, mais voilà, comment on fait pour aider au devoir et comment on fait pour aider au devoir au fur et à mesure qu'on avance dans la scolarité quand on a un niveau scolaire qui ne le permet pas. Autre élément, voilà, une commune où les enseignants sont très jeunes. Des écoles en ERS, des écoles qui sont classées DIF, qui c'est une appellation spécifique au département du Rhône, où en gros voilà des écoles qui sont dans un contexte assez difficile et qui en même temps n'ont pas forcément les moyens des écoles en éducation prioritaire. Deux collèges en réseau de réussite scolaire et un collège qui n'est pas en réseau de réussite scolaire mais qui est de plus en plus en difficulté. Et à un moment donné, ça a même été, au niveau des résultats brevets, le collège qui n'était pas en éducation prioritaire, celui qui était le plus en difficulté. Et puis bon, ça c'est un mystère pour personne, et c'est pareil à Saint-Priest, des résultats scolaires qui sont vraiment très étroitement corrélés à l'origine sociale. Alors, quand j'ai pris mes fonctions de coordonnateur, voilà, on a mis en place un truc... qui était pour nous à la fois une nécessité, si on voulait vraiment avancer, c'était de mieux comprendre ce que faisaient les uns et les autres. On a mis en place ce qu'on appelait une coordination des coordonnateurs. Surtout du côté de la municipalité, est restée pendant très longtemps clandestine. C'était même très compliqué d'organiser ces réunions parce que, comme c'était pas reconnu par les responsables des services, du coup, il suffisait que voilà, il y ait une autre priorité qui vienne se mettre par-dessus et la réunion sautait. On était parfois obligé de se voir en dehors des temps de travail, quoi. Donc, Et on, pendant 5 ans, on a essayé de travailler ensemble, donc agent DSU, coordinatrice CEL, coordinatrice PRE, coordinatrice petite enfance, coordinateur RS, coordinateur jeunesse, coordinateur prévention de la délinquance. Alors au départ, on a simplement échangé sur l'ensemble des dispositifs, les calendriers, les objectifs de chacun des dispositifs, essayer de voir comment on pouvait construire des complémentarités. Et comment chacun de nous, on pouvait aussi informer les personnes avec qui on travaillait sur les possibilités et de chacun de ces dispositifs. Et puis, assez rapidement, on en est venu à pointer les dysfonctionnements, les cloisonnements, l'étanchéité. Et puis, aussi quelque chose qui me semble fondamental, c'est que il n'y avait pas de réflexion sur en quoi ces dispositifs particuliers pour des publics ciblés, ils avaient un dialogue, un échange avec ce qu'on pourrait appeler le droit commun. Et comment on peut aussi mobiliser le droit commun sur les publics prioritaires. Et donc, dans cette coordination de coordonnateurs, on s'est dit, il y a un certain nombre de sujets qui nous semblent essentiels et sur lesquels il faut qu'on essaye de mettre en place une réflexion partenariale. Et c'est ce qu'on a proposé dans le cadre du comité de pilotage du programme de réussite éducative, de mettre en place 3 groupes de réflexion. Un sur les questions d'appui à la parentalité. Alors, qui ne verra jamais le jour, mais 5 ans plus tard, il y a quand même quelque chose qui s'est mis en place cette année autour d'un diagnostic parentalité. Un groupe de réflexion sur les questions de décrochage scolaire. Qui a été piloté par le coordonnateur jeunesse et qui, très rapidement, est devenu en fait un groupe qui a essayé de réfléchir à la mise en place d'un dispositif d'accueil des collégiens exclus, temporairement. Et enfin, 3e groupe que j'ai coordonné sur l'accompagnement à la scolarité. Donc, ce groupe sur l'accompagnement à la scolarité, dont on va parler un peu plus précisément, on a travaillé pendant 3 ans, et ce qui a fait sa force, c'est aussi dès le départ la présence dans ce groupe de l'inspecteur du premier degré, des principaux des 3 collèges, d'une conseillère pédagogique, et puis de l'ensemble des acteurs du territoire. Et alors, ça peut paraître paradoxal, mais le dernier partenaire à se joindre à ce groupe de réflexion, au bout de presque 3 ans, ça a été le service éducation et la coordinatrice CEL. Dès le départ, dès la première réunion, il me semble qu'on a à la fois pu poser sur la table le besoin de réfléchir conjointement sur ce qui se passe dedans, les problématiques que pose la question des devoirs à la maison, comment on peut réfléchir aussi à mettre en cohérence l'ensemble des dispositifs d'accompagnement à la scolarité.
Ce qu'on pourrait préciser peut-être, Stéphane, c'est que dans le même temps, au niveau du temps scolaire, ce qui a été tenté, c'est de mettre en place une information progressive par le canal des conseils des directeurs, par des informations envoyées aux écoles sur la question des devoirs. Et vous avez
c'est le
premier document qui est un des 2 documents. En fait, Stéphane, il y en avait un autre avant qu'on n'a pas photocopié. Un des 2 documents qui ont servi un petit peu de base à cette première étape de sensibilisation que j'appellerais des différents acteurs locaux. Donc, 2 documents qui ont été envoyés aux écoles, travaillés en réunion de directeurs, pour lesquels j'ai sollicité les directeurs en leur demandant de les travailler en conseil des maîtres aussi, au moins de les faire lire et de les commenter en conseil des maîtres sur la question des devoirs. Et notamment, vous avez c'est l'avis presque intégral du Haut Conseil de l'évaluation de l'école sur la question du travail scolaire hors de la classe, qui est un texte qui me paraît vraiment essentiel pour qui veut réfléchir sur la question des devoirs à l'école. Il y a eu, en parallèle avec ce travail sur l'accompagnement à la scolarité, un premier temps qui a été un temps de sensibilisation, un premier temps sur... pour engager une réflexion sur les devoirs à l'école. Et c'est vrai qu'il y a eu, on a essayé en tout cas de faire fonctionner en parallèle le travail de réflexion par des groupes plutôt périscolaires et le travail de réflexion à l'interne de l'éducation nationale.
Alors, la particularité aussi, et qui me semble vraiment essentielle, et c'est le deuxième document que vous avez, on a travaillé avec les principaux des trois collèges, Monsieur Mirjanian et moi, à rédiger un texte qui puisse un petit peu donner un cadre à la réflexion des équipes sur les questions de travail personnel. C'est-à-dire que ce travail a d'abord commencé par un travail de réflexion des pilotes. Et voilà. Et je crois qu'encore actuellement, il existe à Saint-Priest une réunion régulière de l'ensemble des pilotes, premier et second degré, qui traite aussi de d'autres questions, mais il me semble que c'est un peu à ce moment-là que c'est amorcé ce travail. Et voilà, c'est quelque chose qui est pas si fréquent, une réunion régulière de l'ensemble des principaux de collèges et de l'inspecteur du premier degré, des conseillers pédagogiques et du coordonnateur de réseau pour avoir une réflexion un peu cohérente à l'échelle d'un territoire. Donc, ce texte, il a été présenté donc en comité exécutif des RS, en conseil des directeurs. Et puis, dans le groupe de réflexion partenariale, c'est aussi là où on a essayé de réfléchir à quelle formation on pourrait mettre en place l'année suivante, donc ça a été en 2010, à quelle formation on pourrait mettre en place pour faire avancer tout le monde. Et donc, on a pu l'année suivante mettre en place un stage de réseau qui a concerné 27 professeurs des trois collèges, 12 professeurs des écoles RRS, et puis on a dans ce stage pu avoir une journée complète où l'ensemble des accompagnements à la scolarité ont pu être présents et travailler avec les enseignants. Donc il y avait à la fois les animateurs des maisons de quartier, des centres sociaux, mais aussi la coordinatrice du programme de réussite éducative, la coordinatrice CEL. Voilà, l'ensemble des partenaires ont été là et ont pu travailler directement avec les enseignants. Alors, bon, vous aurez dans le diaporama le lien. Donc, ce stage a donné lieu à un compte rendu. Et ce qui me semble intéressant, c'est que ce sont les collègues qui ont rédigé ce compte rendu. Voilà. Dans le même temps, donc sur l'année de 2010-2011, on a essayé de travailler donc à la rédaction d'un projet local de l'accompagnement à la scolarité, et dont la particularité, c'est qu'il engage autant l'école que les partenaires de l'école. Alors, ce texte, il a d'abord été co-rédigé dans un petit groupe. On était 5. Donc, il y avait l'agent DSU, la coordinatrice PRE, moi-même et la coordinatrice CEL. Et puis, donc, ensuite, on l'a discuté et validé dans le groupe de réflexion partenariale. Sur la même année, alors, je vous ai parlé d'un stage de réseau. Ça a concerné un certain nombre d'enseignants, mais pas tous. Et ce qui nous a semblé quand même vraiment fondamental, c'est que cette question, il puisse y avoir au moins un début de sensibilisation et de formation de l'ensemble des enseignants sur la commune. Et donc on a mis en place, sur des mercredis après-midi, par secteur de collège, des conférences qui ont concerné donc l'ensemble des enseignants du premier et du second degré de la commune. Avec l'intervention de Séverine Cacpo. Alors moi j'avais pu entendre ici et voilà, son intervention m'avait vraiment interpellé, et donc on a pu la faire venir sur une des premières conférences qu'on a filmé, enregistré, et puis se servir de cet enregistrement pour les deux autres. Et puis donc d'un professeur d'IUFM, Monsieur Vignat. Et donc, c'est sur ces trois conférences, l'ensemble des enseignants ont été sensibilisés. Et sur la fin de l'année, on a travaillé, et c'est aussi un document que vous avez à la suite, sur comment on pourrait aider les équipes, quels documents d'aide on pourrait faire pour que chacune des équipes d'école et des collèges puissent aller vers une charte, entre guillemets, des devoirs à la maison. Et ce document, voilà, on l'a corrigé à trois, l'inspecteur du premier degré, une principale de collège et moi-même. On en arrive à l'année dernière. Alors, je vous ai parlé du stage de réseau où il y avait les professeurs de collège, les professeurs du premier degré sur 2010-2011. C'était un stage qui a duré 15 jours pour les professeurs du premier degré. Mais les professeurs des collèges n'avaient pu être là que les trois premiers jours. On pouvait pas, étant donné la manière dont les professeurs du collège viennent au stage, c'est-à-dire en n'étant pas remplacés devant leur classe, ils ne pouvaient pas être là sur les 15 jours. Et il nous a semblé vraiment important de pouvoir continuer la réflexion avec eux, parce que les trois premiers jours, on avait posé beaucoup de problèmes, mais on avait construit peu de solutions, entre guillemets. Donc on a pu faire sur l'année dernière donc un stage de 2 jours avec que les collègues de collège. Alors, ça me semble intéressant parce que moi j'avais vécu beaucoup de stages de réseau où souvent entre le professeur du premier degré et le professeur du second degré, le dialogue est difficile. Et sur ce stage intercollège, j'ai vraiment senti quelque chose, c'est que les professeurs du collège étaient beaucoup moins en représentation. En défense de, voilà, nous au collège, on fait ça, mais vous, au premier degré, enfin, il y a une manière d'être en représentation dans les stages de réseau des professeurs du collège qui aidait pas vraiment au travail. Et sur ce stage intercollège, on a pu vraiment aller au fond des choses, des questions de méthodologie, des disciplines, et qui a vraiment. Enfin voilà, je pense que de temps en temps, le travail interdegré, c'est intéressant, mais des temps aussi. Où on peut travailler par degré et même par discipline, c'est vraiment important. Et donc dans ce stage a été lancée une expérimentation sur les deux collèges RRS qu'on a appelé les 7 dernières minutes. Donc vous avez un petit document qui en parle, où les principales de collèges étaient là et se sont engagés à ce que non seulement les professeurs qui étaient là au stage, mais l'ensemble des enseignants puissent essayer d'expérimenter sur une période donnée ces 7 dernières minutes de cours qui pouvaient être consacrées à lancer, préparer, mettre sur orbite les devoirs à la maison. J'en discutais il n'y a pas longtemps avec le coordonnateur des réseaux. Enfin, ce dispositif, il a vraiment été approprié par un certain nombre de collègues et qui continuent à le défendre, notamment les collègues de langue se sont vraiment emparés de ces 7 dernières minutes et continuent à le faire et à défendre cette expérimentation et ce temps-là en conseil pédagogique. Voilà. Au niveau des écoles élémentaires, donc a été lancée une réflexion des écoles en conseil des maîtres pour travailler un avenant au projet d'école sur le travail personnel. Donc vous en avez un exemplaire d'une école dans vos documents. Et puis une réflexion sur un document de liaison avec les familles qui est en cours cette année.
Vous avez les deux éléments, c'est-à-dire à la fois à partir d'un cadre qu'on avait élaboré et qu'on a envoyé aux équipes. Ce que j'ai demandé cette année aux équipes d'école, c'est, comme l'a dit Stéphane, de rédiger à la fois un avenant au projet d'école sur ce qu'on appelle plutôt le travail personnel que les devoirs. Un avenant avec deux éléments, à la fois ce qui peut harmoniser au niveau de l'école les exigences par rapport au travail personnel en fonction des niveaux de classe, donc une harmonisation d'équipe, une réflexion d'équipe sur le travail personnel et donc les leçons, et puis de voir quel type de document on peut élaborer pour les parents. Et vous avez un exemple pour une classe de CE2 de document qui va être utilisé qui sera utilisé lors des réunions de classe et qui peut être utilisé dans le cadre de la communication avec les familles. Voilà, c'est en cours. Sur 17 groupes scolaires, on en a 7 pour l'instant qui nous ont renvoyé leur avenant. Donc c'est le travail de cette année scolaire.
Voilà. 2-3 mots sur donc ce projet local d'accompagnement à la scolarité. Alors, pour vous voilà vous expliquer un petit peu comment on a essayé de le rédiger. Et puis je vous dirai aussi deux mots, parce que dans tout ça, enfin je veux dire, enfin tout n'est pas simple et idyllique et voilà. Donc ce qu'on a essayé de poser en principe de ce projet, c'est passer d'une logique des publics à une logique des questionnements des pratiques professionnelles des enseignants et des accompagnants pour lutter contre les discriminations dans l'accès au savoir. On a essayé de faire en sorte que ce projet s'appuie sur un diagnostic et des valeurs partagées. Et puis on a essayé de définir des axes de travail qui pourraient se décliner par un travail territorialisé sur chaque secteur de collège. On a essayé de reposer en principe que les premiers accompagnants à la scolarité d'un enfant sont ses parents. Et que ça pose vraiment une question, on aura l'occasion d'en reparler aujourd'hui, sur comment on travaille avec les familles. Il nous a semblé aussi que dans la question des devoirs à la maison, si on la remet dans une problématique de travail personnel, c'est bien la question de l'autonomie et de la construction de l'autonomie qui est en jeu. Et puis, derrière ça, il y a aussi la croyance dans le développement possible de chacun. Voilà, assez rapidement, donc les savoirs, donc premier axe de travail, les savoirs à construire et à décontextualiser dans et hors de l'école. Ce qui pose la question de comment on travaille avec les accompagnants, que ce soit les parents ou les encadrants, sur cette question de la circulation des savoirs. Travailler sur rendre l'école lisible et visible, l'ouverture à la culture et à l'environnement. Et puis cette question du travail personnel de l'élève. Comment cette question, c'est pas simplement ce qu'on envoie à l'extérieur, mais comment on commence à travailler, y compris à l'intérieur de la classe, sur apprendre à faire son travail personnel, à devenir autonome dans son travail personnel. Et puis, ces questions aussi dont on entend souvent parler de méthodologie, creuser cette question de la méthodologie et en réfléchissant en quoi la méthodologie, c'est pas simplement savoir préparer son cartable, mais c'est aussi lié à chacune des disciplines scolaires. Et comment chacune des disciplines scolaires, elle a une méthodologie propre. Et comment on travaille avec les élèves sur cette méthodologie-là. Alors ce projet local d'accompagnement en scolarité, il a mis tout le monde un petit peu au travail de manière partenariale. Et là où je vous disais, c'est que tout n'est pas idyllique. Deux ans plus tard... Enfin, j'ai envie de dire, qu'est-ce qu'il en reste pour l'ensemble des partenaires? Et j'allais dire, pour moi, une des limites de ce travail-là, c'est que j'ai pas l'impression qu'il ait été repris, valorisé à un niveau politique, au niveau de la commune. Et du coup, je pense qu'il a impacté le travail des gens qui ont participé à sa rédaction. Mais vous le savez aussi bien que moi, les personnes, elles changent. Et comment on fait en sorte que cette mémoire et ce travail se transmettent les pilotes, et là, je pense vraiment aux pilotes de l'ensemble des dispositifs partenariaux, ne s'en emparent pas pour en faire quelque chose. Voilà. C'est un peu l'interrogation que j'ai et un peu les déceptions que j'ai eues sur la fin de mon travail l'année dernière. Ouais.
Ça pose quand même, je crois que c'est vrai, l'analyse est tout à fait juste, mais il y a quand même eu un travail de fond qui pourra être repris. Ça pose toute l'interrogation de la mise en place de ce qu'on appelle les projets éducatifs locaux ou les projets éducatifs de territoire qui sont inscrits dans la loi d'orientation, mais le projet de loi d'orientation, mais comment on travaille ensemble ? Éducation nationale et puis partenaires éducatifs locaux, qui a l'initiative de ces projets, qui peut intervenir sur le déroulement de la mise en de la conception et de la mise en œuvre des projets. On a eu en parallèle aussi la ville qui a souhaité conduire une réflexion sur la mise en place d'un projet éducatif local dans le cadre d'ateliers de l'éducation, mais avec une méthodologie de la ville dans laquelle l'éducation nationale était un participant, mais simplement un participant, et n'était pas à l'origine de la conception de la méthodologie de mise en œuvre du projet. Donc, je crois qu'il faut partir dès le départ ensemble, si on veut aboutir. Et la démarche qui a été mise en œuvre dans le cadre de ce projet éducatif local, qui concernait plutôt le périscolaire et le scolaire, pourra être prise. Et que je crois que la ville a aussi avancé au niveau de la réflexion sur les pratiques à mettre en œuvre pour vraiment qu'il y ait un partenariat et pas seulement une participation à un processus décidé par la ville. Mais c'est au cœur quand même des réflexions actuelles de la loi d'orientation, du projet de loi d'orientation, ces questions.
Voilà. Alors, pour terminer un peu cette présentation, on voulait vous livrer un petit peu quelques réflexions sur les convictions qui ont guidé notre travail, et puis des réflexions aussi sur cette question du pilotage. Alors. Cette première chose, ceux qui travaillent au Centre Michel Dollet, c'est une conviction que nous a livrée. Je pense qu'on a essayé de se l'approprier. Marc Prouchet, qui est un formateur du Centre Michel Dollet, tout dispositif d'aide ou d'accompagnement doit s'inquiéter des conditions de sa disparition. C'est quelque chose à la fois de qui interpelle, qui est exigeant, mais qui nous rappelle sans cesse que mettre en place une action particulière, si on ne s'inquiète pas de la formation des acteurs et de comment ils peuvent intégrer dans leur pratique normale des choses spécifiques qui sont expérimentées dans le cadre d'une action ou d'un dispositif, je suis pas sûr que ça soit très très efficace. L'éducation prioritaire et les politiques éducatives ciblées sur des publics en situation difficile ne sont qu'un pansement sur une jambe de bois si elles ne se donnent pas pour objectif principal de modifier les pratiques normales des institutions. C'est vraiment ce à quoi nous croyons. La difficulté scolaire est le résultat de processus discriminants dans l'école. Lutter contre la difficulté scolaire, c'est mettre à jour ces processus pour transformer consciemment les pratiques professionnelles. On en a parlé un petit peu mercredi, et je pense que c'est ce qui a guidé notre travail ces dernières années. Quelque chose qui pour moi a été vraiment fondamental et qui me semble tellement... tellement prégnant dans toutes les discussions, les échanges, aussi bien avec les collègues qu'avec les familles, c'est cette question de la culpabilisation réciproque. On peut travailler sur ce qui se passe dans l'école sans dire c'est la faute du prof et sans renvoyer les choses, c'est la faute de l'élève, c'est la faute de ses parents. Si on ne sort pas de cette logique de culpabilisation réciproque, on ne peut pas avancer. Une autre chose aussi, et on en a parlé beaucoup depuis le début de ce stage, la transformation des pratiques professionnelles, c'est quelque chose de compliqué. Ça se fait pas par pas de géant, ça se fait pas par injonction, ça se fait par des petits décalages et par un accompagnement bienveillant et qui reconnaît les compétences des acteurs. Et je pense que une des choses qui nous permet de nous professionnaliser, de mieux comprendre notre place à chacun, notre fonction, c'est aussi le partenariat. C'est aussi dans le partenariat qu'on comprend mieux, en se situant par rapport aux autres, la place où on est et les missions qu'on a.
Alors sur le pilotage, je conçois l'action de pilotage que je conduis en tant qu'IEN de circonscription. Pilotage, beaucoup de personnes ont à piloter, le directeur d'école avec ses collègues, bien sûr les chefs d'établissement, mais aussi le coordonnateur quelque part doit piloter, enfin le formateur pilote des formations, donc je crois que c'est plus large que simplement lorsqu'on a une fonction hiérarchique. Ce que je voulais dire d'abord, c'est que j'ai toujours pensé qu'on peut être loyal par rapport à son institution tout en étant critique. tout en ayant une forme de liberté de parole. Et que c'est justement parfois en ayant cette liberté de parole qu'on sert aussi son institution. Par rapport au pilotage, bon, j'ai bien sûr utilisé aussi des références, et j'ai beaucoup utilisé les travaux d'un inspecteur général, Jean-Pierre Aubin, qui a eu beaucoup d'écrits sur notamment le projet d'établissement, avec des ouvrages très intéressants sur le projet d'établissement. Et distingue trois modèles de pilotage. Et c'est de là que je souhaite partir pour vous dire un petit peu où j'en suis. Le pilotage par les normes, le contrôle de conformité. Le pilotage par les résultats, l'évaluation, la pression sur les agents. Je vais un peu revenir dessus. Et puis le pilotage par les finalités et les valeurs. Alors, la question qu'on peut se poser, et là je vous donne mon analyse personnelle, c'est où en est-on aujourd'hui dans l'éducation nationale, et pas seulement dans l'éducation nationale. Je crois que nous sommes encore sur le modèle normatif. C'est quelque part normal dans une administration. Normatif, ça veut dire un fonctionnement administratif, hiérarchique, descendant, très normé. Je dis c'est un modèle normal dans dans une administration. C'est aussi, on le verra tout à l'heure, quelque chose d'utile. Hein, c'est important que l'institution donne des orientations et que des lignes directrices, un cahier des charges pour que chacun sache où on va. Hein. L'éducation nationale est dans un cadre législatif. Donc je crois que c'est fondamental. Donc on est encore dans ce cadre-là. Et ce que j'ai noté, là, c'est la figure traditionnelle du directeur, quelle que soit l'institution. Où on en est, je crois qu'on en est aussi actuellement et depuis une trentaine d'années dans, j'allais dire, l'imposition, quand même, dans la tentative d'expérimenter quelque chose qui relève plus de l'entreprise, c'est-à-dire le modèle de la performance, pour faire simple, du résultat, de la performance. Ça, on peut le constater dès les années 80 avec la mise en place des projets d'école, des évaluations, du travail sur les compétences qui viennent de l'entreprise. Et puis, ce qui s'est vraiment accentué au cours des 10 dernières années, c'est-à-dire la performance. L'éducation nationale, les enseignants doivent être performants, on doit pouvoir mesurer l'atteinte d'un certain nombre de résultats. J'ajouterais quand même que ce modèle-là, c'est aussi quelque part le modèle de l'autonomie. Le modèle libéral de l'autonomie qui peut aussi avoir des avantages. Le problème de l'école, je le dirais actuel, à mon avis, de l'école d'aujourd'hui et des 10 dernières années, c'est qu'on a voulu à la fois poursuivre sur un modèle hiérarchique très normé et en même temps dire qu'il faut utiliser le modèle de l'entreprise sans en donner une réelle autonomie. Ce qui a abouti à une pression extrêmement forte à tous les niveaux du système éducatif et en bout de course bien sûr sur les écoles qui crée quand même un fort malaise au niveau du terrain. Dans l'éducation nationale. Et je pense que ce qu'on dit là de l'éducation nationale, c'est valable aussi dans d'autres secteurs d'activité. Donc c'était la figure du pilote, du manager, donc le directeur pour la norme hiérarchique, et il y a le pilote, le manager. Maintenant, par rapport au pilotage par les finalités et les valeurs, où on en est, je crois qu'on est loin d'avoir exploré tous les possibles de ce mode de pilotage. C'est un pilotage, je crois, qui est vraiment axé sur les valeurs de l'humanisme, sur le respect de la personne et sur la mise en place de pratiques participatives. Alors, je crois vraiment en ce sens, on peut s'interroger comment faire pour essayer d'aller vers ce modèle-là. on verra, sans oublier les autres aspects, on reviendra dessus tout à l'heure. Je crois que d'abord qu'il faut retrouver le sens de l'humain. Le sens de l'humain, je crois vraiment qu'il y a nécessité d'une rupture. Une vraie rupture avec les pratiques actuelles de pilotage et de management. Je crois qu'il faut abandonner, j'ai mis le terme, j'ai hésité à le mettre, mais je l'ai mis quand même. Il faut abandonner l'illusion de l'efficacité du libéralisme autoritaire, où on a ce qui ne fonctionne pas dans tous les modèles. Avoir des choses claires, des directives claires, une autorité claire, c'est normal. Mais avoir de l'autonomie, c'est très intéressant. Mais faire croire qu'on a de l'autonomie en conservant un modèle très hiérarchique, très pesant, très autoritaire, ça ne peut pas fonctionner, à mon avis. Voilà, donc, ça c'est. Je crois qu'il y a vraiment besoin d'une rupture. Je crois que cette rupture, le ministre actuel la souhaite. En tout cas, c'est ce qu'on peut lire dans les écrits, dans la lettre qu'il a adressée à tous les enseignants pour une autre gouvernance de l'école. Et ça me paraît être une nécessité, parce que, comme je vous le disais, il y a une souffrance actuellement au niveau de l'éducation nationale. Retrouver le sens de la rencontre, c'est-à-dire que, oui, c'est je crois, lorsqu'on travaille, lorsqu'on est dans une organisation, d'abord par la rencontre, c'est-à-dire aller sur le terrain, travailler avec les équipes. Je crois que c'est de cette façon qu'on peut faire avancer les objectifs et les orientations nationales. Quelques éléments de ma réflexion aussi. Je crois qu'on doit absolument, ça a été en tout cas ce que j'ai fait, essayer de s'interroger sur la question du pouvoir. Quand j'étais en formation, et puis après, j'ai beaucoup lu d'écrits sur la sociologie des organisations, qui nous apprend beaucoup de choses, et je crois que c'est essentiel pour quelqu'un qui pilote une organisation. Premièrement, que le pouvoir est toujours quelque part. Donc, il ne faudrait pas entendre dans ce que j'ai dit qu'il y a un refus d'exercer une autorité. Absolument pas. Si le responsable d'une organisation n'assume pas son autorité, l'autorité passera ailleurs, sur d'autres leaders. Elle sera plus dissimulée sur des groupes d'influence. Donc je crois vraiment qu'il faut que quelqu'un dans une organisation exerce une autorité, celle qui lui est déléguée par l'institution. Et puis ce que nous apprend aussi la sociologie des organisations, c'est quel est le rôle d'un leader, d'un responsable, d'assurer le fonctionnement du système, bien sûr, système de gestion, gestion matérielle, gestion des ressources humaines, de mobiliser les énergies aussi pour conduire le changement. Et on voit bien que pour mobiliser les énergies pour conduire les changements, ça veut dire qu'on ne peut pas se satisfaire d'un modèle normatif du haut en bas de la chaîne administrative. C'est pas possible. Autre apport de la sociologie des organisations, c'est que de toute façon, lorsqu'on est UN, lorsqu'on est principal, on a une autorité qui est reconnue de fait par les acteurs. Moi, c'est mon vécu. Hein. J'ai peut-être eu de la chance. C'est possible. Hein. En tout cas, j'ai toujours eu le sentiment qu'elle était reconnue et qu'il n'y a pas besoin d'en faire trop. Qu'il n'y a pas besoin de vouloir faire de l'autoritarisme. Parfois, on décide. Ça ne veut pas dire qu'on ne décide pas. Hein. C'est pour ça que j'espère bien me faire comprendre. Et puis, autre élément, les personnes ont le pouvoir d'accepter ou de refuser les propositions des hiérarchies tout en faisant semblant de les accepter. Je crois que lorsqu'on est sur ce modèle très autoritaire, les gens ont un art extraordinaire pour faire semblant de faire. Mais qu'au bout du compte, si on regarde en termes d'efficacité, les choses se font plus ou moins bien et parfois pas du tout. Le pouvoir de la contrainte, il est limité. Je crois qu'il faut lui préférer celui de la conviction, et que le véritable pouvoir, c'est quand on arrive à mobiliser les acteurs, et pour cela, il faut faire le pari de la confiance. Vous avez peut-être un petit peu saisi, je reviendrai dessus, au cours même de l'exposé de Stéphane, la façon dont j'essaie de travailler, c'est-à-dire en donnant beaucoup d'autonomie aux collaborateurs. Bien sûr, ce qui est intéressant aussi, c'est qu'il faut choisir les bons collaborateurs, ceux qui sont en adéquation, qui ont les compétences qui semblent aller de pair avec ce qu'on souhaite faire. Mais une fois qu'on a fait le choix, et si on ne s'est pas trompé, alors, je ne m'étais pas trompé en l'occurrence, on ne s'était pas trompé plutôt avec les principales aussi, il faut laisser une marge d'autonomie importante. Et vous l'avez compris, même dans la présentation même, Stéphane a eu, on pourra l'appeler tout à l'heure, on verra, de la délégation. Ça dépend ce qu'on met sous les termes. Délégation, même si très régulièrement on a échangé, on s'est réunis avec les principales, lui et moi, mais avec une grande autonomie pour conduire un travail qu'on avait aussi orienté sur la politique de la ville, ce qui n'est pas le cas de tous les coordonnateurs. Quand on a, au début des RRS, quand même, ce qu'il faut souligner, c'est que dans les conseils de réseau, il y avait la ville. Et qu'on a perdu cet élément essentiel des conseils des réseaux, c'est-à-dire la présence des partenaires municipaux au sein de la structure de l'éducation prioritaire, hein, des conseils de réseau. Et que je crois que c'est une dimension qu'il fallait réintroduire. Alors on l'a fait localement, mais qu'il faudra sans doute réintroduire dans le cadre de la prochaine rénovation de la politique de l'éducation prioritaire et de la politique de la ville. Donc... Pour poursuivre sur ce qui m'a aidé à penser un petit peu le management, je ne sais plus quels sont les auteurs, mais c'est le cadre des styles de management qui m'a beaucoup aidé un petit à penser les choses. C'est quelque chose de connu, hein, mais il me semble important de revenir dessus. Les recherches ont distingué, en tout cas certaines, quatre styles de management. Le style directif, qui a pour valeur centrale la structuration, qui insiste sur les instructions, l'organisation, le contrôle de conformité, la qualité et de la qualité. Le style persuasif, qui a pour valeur centrale la mobilisation, la conviction, la formation. Le style participatif, qui a pour valeur centrale la concertation, qui repose sur l'écoute et le conseil. Et le style délégatif, qui a pour valeur centrale la responsabilisation. Je trouve, pour moi en tout cas, ce cadre extrêmement clair et extrêmement opérationnel pour aller vers de l'action au quotidien. Ce qu'on nous dit aussi, c'est qu'en fonction de la situation et en fonction de notamment des ressources, des compétences des collaborateurs, on exerce des styles différents. Avec quelqu'un qui dysfonctionne, on va être vraiment sur le style directif. Quand il faut décider, il faut décider. Et c'est le rôle d'un responsable d'une organisation. Et puis parfois, c'est plus la conviction qu'il faut utiliser. Et puis d'autres fois, en l'occurrence, le travail sur les devoirs, c'est vraiment une action de longue haleine, de formation pour essayer d'aller à l'encontre de représentations profondément ancrées chez les enseignants. Même chez les enseignants qui ont une réflexion pédagogique assez poussée, notamment je pense à certaines écoles qui ont en RRS, qui ont des équipes, qui réfléchissent, qui travaillent, on sent énormément de résistance par rapport à la question des devoirs. Donc il faut du temps et il faut beaucoup de formation et d'échanges de réflexions communes. Par rapport à ces différents styles, moi j'ai fait un choix. Mon objectif, c'est d'aller autant que possible vers la participation, voire la délégation parfois. Hein, même si on joue sur tous les registres, il y a des choix qui sont faits. J'ai fait le choix où il s'est imposé, j'en sais rien. En tout cas, je pense que c'est comme ça, de développer le plus possible la participation et la délégation. Je crois que ça passe aussi d'abord par... C'est pour ça qu'on parle de pilotage par les finalités et les valeurs, ou les valeurs et les finalités, par le fait que je crois qu'on doit avoir, c'est un principe rogérien, une considération positive inconditionnelle, c'est l'expression qu'il utilise, pour les gens qui travaillent avec nous, pour les collaborateurs, pour les enseignants. La considération positive inconditionnelle, ça veut dire qu'en toute situation, et même si par ailleurs on a des reproches à faire sur l'exercice d'une fonction, ce qui peut arriver, ce qui arrive rarement mais qui arrive parfois, on doit toujours d'abord essayer d'être respectueux envers la personne. Hein, donc je crois, et puis tout axé sur le positif avant de dire éventuellement ce qui ne va pas. C'est en tout cas ce que j'essaye de faire. Donc la reconnaissance pour essayer d'aller vers ce qu'on pourrait appeler un management coopératif. C'est ce que j'ai essayé de définir de manière un petit peu caricaturale. Priorité à la participation. Encore une fois, ça ne veut pas dire qu'on ne décide pas, qu'il n'y a pas aussi un fonctionnement hiérarchique. C'est loin d'être le cas, je crois. Priorité à la participation, voire à la délégation. Recherche du consensus avant la décision, au maximum. Au maximum le consensus. Après, s'il n'y a pas de consensus, eh bien, il y a quelqu'un qui décide. Priorité à la collaboration et au travail d'équipe. Et puis aussi l'importance de la régulation plus que de l'évaluation sommative. Réguler, ça veut dire faire des points fréquemment pour voir par rapport aux objectifs où on en est, si on va dans le bon sens, ce qu'il faut faire pour améliorer les choses. Voilà, donc les autres éléments importants par rapport à ce travail, quelles sont les ressources du responsable ? Savoir inscrire son action dans la durée. Je crois que ça me paraît être fondamental et on est beaucoup, beaucoup trop actuellement dans la précipitation. Donc il faut réinstaller la durée. On voit bien cette réflexion sur le travail personnel, les devoirs. Elle a 6 ans d'existence et puis pas à pas, on essaie d'avancer, d'aller plus loin et ça se poursuivra. Savoir être persévérant sur les objectifs visés et souple sur les moyens de les atteindre, adapter son style de management à la compétence et à la motivation des collaborateurs, conjuguer l'indispensable autorité du responsable avec une réelle participation des acteurs. Jean-Pierre Aubin le dit bien dans ses ouvrages. C'est un paradoxe, mais on est obligé de gérer ce paradoxe. Il faut à la fois exercer une autorité, l'autorité du responsable de l'organisation, et en même temps favoriser la participation des acteurs, accepter la perte d'une partie de son pouvoir apparente de contrainte, ça j'en ai déjà parlé, et puis favoriser la reconnaissance des acteurs. Pourquoi ? Eh bien parce que je crois que c'est la meilleure façon de développer l'engagement et surtout l'expression des différents talents. On est dans un système beaucoup trop contraint où les talents sont où l'expression des talents est difficile, extrêmement difficile, et au contraire il faut essayer de faire que chacun puisse exprimer ses talents. Alors pour conclure, je voudrais vous lire, si je le retrouve, un texte de Philippe Mérieux qui est paru lundi ou mardi dans le Café Pédagogique. Mais est-ce que je vais le retrouver? Oui, il est là. C'est un texte très intéressant, si vous souhaitez le lire, où il donne son regard sur le projet de loi d'orientation pour l'école. Donc je trouve que c'est un regard à la fois positif mais critique. Et qu'est-ce qu'il nous dit ? Il est temps de revenir à l'essentiel. L'éducation nationale ne deviendra un système adulte construit au quotidien avec des professionnels adultes impliqués que si l'on distingue nettement ce qui relève du cahier des charges imposé légitimement par la représentation nationale de ce qui relève de la liberté d'initiative et de création collective des auteurs locaux. Il faut aujourd'hui, pour sortir de la dépression scolaire, donner de l'air aux enseignants et cadres de l'éducation nationale, remplacer le contrôle pyramidal a priori par un accompagnement bienveillant. Je crois qu'il dit exactement l'esprit, et puis il conclut très bien sur ce point sur le pilotage d'une circonscription. Et puis pour finir, je souhaitais vous afficher une citation de Saint-Exupéry qui est, enfin j'ai en fait depuis, et je l'ai eu avec moi à Décines, et je l'ai emmené à Vaux-en-Velin, et je l'ai emmené à Saint-Priest, une affiche, une grande affiche où on voit Saint-Exupéry avec son casque sur la tête, et cette citation de Saint-Exupéry que je trouve très belle et en même temps très juste: la grandeur d'un métier est d'unir les hommes. Et je pense que pour unir les hommes, eh bien, il faut aussi que chacun se sente reconnu dans l'action qu'il conduit au quotidien, quel que soit son niveau de responsabilité. Voilà, j'ai essayé un petit peu d'illustrer la manière dont on travaille, et j'espère en plus que la façon dont Stéphane a à la fois présenté les choses et la manière dont on a essayé de travailler pendant 5 ans illustre un petit peu ce que je viens de dire. C'est pas seulement un discours, mais qu'on en voit, on en perçoit un petit peu au moins la réalité, en tout cas la réalité telle que j'essaie de la mettre en œuvre. Voilà, merci.